êtes sur le point de suivre Lève-toi et brille, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, sise à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny. Diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenue à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h. Nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu. La meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.
Salut dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur notre consécration au Seigneur. Je vous rappelle que nous sommes en train de travailler sur comment nous rapprocher, comment nous abandonner, comment nous donner au Seigneur. Comment nous pouvons être de vrais chrétiens? Parce que l'enjeu de notre vie, ce n'est pas d'aller à l'église seulement. Ce n'est pas de porter le nom de chrétien seulement. Ce n'est même pas en réalité d'être béni seulement. La bénédiction est une petite partie des conséquences et des avantages du fait que nous sommes chrétiens. Parce que quelle que soit la bénédiction que nous recevons, elle est limitée à notre petite vie terrestre qui n'est pas longue. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a sauvés. Le Seigneur nous a sauvés pour une vie abondante, une vie éternelle. Et quoi que nous recevions sur la terre ici, ce n'est que les premiers, ce n'est qu'un échantillon de la gloire pour laquelle nous avons été appelés. Mais nous devons nous rappeler constamment qui nous sommes si nous voulons pouvoir l'être. Parce que on ne devient pas ce qu'on est censé être simplement parce qu'on l'est. C'est-à-dire que c'est vrai que ce qui est né de l'homme est l'homme. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et qu'en conséquence, on peut considérer que quand on est homme, on est un homme, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour être un homme. Parce que dans la semence incorruptible par laquelle nous sommes engendrés, il y a déjà tout ce qu'il faut pour être un homme.
Mais
en même temps, quand on regarde des histoires comme celle de Tarzan, cela nous prouve que si un enfant naît et grandit avec les singes, si vous le voyez à 18 ans, il n'a jamais croisé d'homme, il a grandi tout le temps avec des gorilles, il va parler comme les gorilles, il va sauter comme les gorilles, il va avoir les réflexes d'un gorille, il a beau être un homme, peut-être on va le rééduquer après, s'il a grandi qu'avec les gorilles, il se comportera comme un gorille.
Et
on le voit même dans les enfants. Si vous avez un enfant qui reste dans une famille de paysans, vraiment sans aucune civilité, quand il grandit, c'est peut-être l'enfant d'un milliardaire. S'il grandit dans un milieu comme ça, quand il sera grand, il se comportera comme eux. Il ne se comportera pas comme un enfant de la famille dont il vient. Là où nous grandissons, là où nous voyons les enfers, détermine quelque part comment nous nous comportons, même si notre nature intrinsèque ne change pas. C'est là où la parole de Dieu nous dira que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Plus le Seigneur me révèle son cœur, ce qu'il attend de l'Église, et plus je m'inquiète de ce que nous sommes. Plus je comprends qui nous sommes censés être, plus j'ai peur de ce que nous sommes en train d'être. Mais le pire, c'est que comme la quasi-totalité des gens n'est pas ce qu'on est censé être, tout le monde est fier de ne pas être ce qu'on est censé être. Je vois, nous les chrétiens supposément évangéliques, quand nous faisons le malin, on se prend pour les grands enfants de Dieu qui sommes obéissants à la parole. Mais plus je découvre la parole, plus je dois admettre que nous n'obéissons pas à la parole. Parce que quand on regarde ce que la Bible dit de l'Église et qu'on regarde ce que l'Église est, on se demande si c'est de la même chose qu'on parle.
Et
on comprend quand Jésus disait aux pharisiens qu'ils ont remplacé la parole de Dieu par la tradition des hommes. C'est comme ça à l'époque des pharisiens, ils avaient plein de règles, plein de méthodes, plein de lois, et tout le monde devait y obéir. Mais Jésus dit tout ça là, est-ce que c'est ça que Dieu vous a demandé? Dans les différentes églises, quelles que soient les dénominations, dès qu'elles grandissent, on fabrique plein de traditions, plein de règles humaines, et avec le temps, on veille rigoureusement sur elles. Et elles étouffent la parole de Dieu, tellement que l'enfant qui naît, si tu lui montres l'église et tu lui montres la Bible, il va te dire que ce n'est pas la même chose, que tu dois vouloir parler d'autre chose. L'église aujourd'hui n'est pas l'église. Par exemple, quand les gens disent je vais à l'église, ça n'a aucun sens, on ne peut pas aller à l'église. En disant je vais à l'église, on considère l'église comme un lieu. Mais ça ne correspond à rien de biblique. Il n'y a pas un lieu qu'on appelle l'église, pas à un seul endroit dans la Bible. Nous sommes l'église. On ne va pas à l'église. L'église est un corps, n'est pas un lieu. L'église est un esprit, ce n'est pas un lieu. L'église, c'est l'ensemble de ceux qui sont morts à leur chair, qui sont morts à leur volonté, qui sont morts à leur ego pour ne vivre que par la parole de Dieu qui est l'esprit de Jésus-Christ.
Si maintenant il y a un voyant mais hoplé mais magbe le beaucoup va passer et ton les sockets d'acclus ouadi le bon tuyau et ton les sockets d'acclus ouadi nous mimo aider sur notre voie passer mais c'est d'acclus ouadi bon magbe le des maudor qu'elle va mina blow hoplé mais ne ira.
L'Église c'est ceux qui ont compris et cru du cœur l'œuvre de la croix.
Agouwe hoplé mais monukunu je.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a même pas 20% des chrétiens, y compris évangéliques, qui ont compris l'œuvre de la croix. Que ce soit les fidèles, les pasteurs, les apôtres, les généraux, les bishops, les archibishops, les évêques, ils sont nombreux à n'avoir rien compris à l'œuvre de la croix.
Man of God, the Odie, O General, Wagasu Vinodie, Awagasu Viaton and Nenuizeno, but the Toto de Gule, Auzen already, O Sokola Sokobet already, Ero Big Player, the Kumokun and Wenya Swakus Waton.
Parce que tu ne peux pas comprendre l'œuvre de la croix, être un serviteur de Dieu est affublé de tant de titres que ça.
Eh, Nasimokun, Jazodia Cruz Waton, Lobora Jay, and Mijayonio, Mina Yulo Middle Rivera. But I am a man of God. Lord, I am a pache. You are a sack of dote. Lord, I am a sewema.
On va dans des églises et puis un grand trône en haut là-bas pour le man of God et les autres sont petits en bas. Jésus était au milieu des siens. Il n'a jamais pris un trône. Non, dit Jésus au milieu de ses disciples.
Et ne voyez pas le grand théâtre. Lord, I am a fidèle à ti. Et non, I saw physio. Da gade. Si go ato, I am a physio.
Il y a des églises dans ce pays où les fidèles y rampent au sol pour parler à leur pasteur. Alors que nous voyons dans la Bible que même aux anges, le Saint-Esprit ordonne de ne faire la vénération, de n'aller au sol, de n'adorer personne si ce n'est Dieu. Mais combien de pasteurs, combien de révérentissimes ne se font pas adorer à côté
de nous?
Ça correspond à quoi? Ce n'est pas l'église. Les gens viennent à l'église en disant je ne veux pas, je n'ai pas envie. Ils donnent des ordres à leur pasteur. Ils ont créé quelque chose qu'on appelle président. Moi, je n'ai jamais vu de président dans la Bible qui dirige l'église parce que c'est lui qui a un peu d'argent. Ça, c'est maman. Celui qui dirige à la place de Jésus, c'est maman. Non, les présidents sont des agents de maman. Celui qui, parce qu'il a un peu d'argent, dirige une église, c'est maman. Et je lui dis qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Personne ne peut servir Jésus et maman à la fois. Je l'affirme. D'après la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est le seul chef de l'église. Il n'y a pas de président dans la Bible.
Jésus,
Conclusion, le pasteur n'enseigne pas ce qu'il croit que le Saint-Esprit va aimer. Il enseigne ce que le président, les donateurs, ceux qui payent les dîmes vont aimer.
Attention,
Si un président ou un gros donateur tabasse sa femme, fait de l'adultère, le pasteur ne peut même jamais lui dire ça. Qui il est? Parce que ce n'est plus l'église. Ce n'est pas une église, ça. C'est un groupe satanique. Des églises où les gens disent qu'ils croient en Jésus. Et le premier commandement de Jésus, il dit, il faut que je le fasse de se baptiser. On dit, moi, je n'ai pas envie de me baptiser. Et on ne se baptise pas. Mais on s'appelle chrétien. Ça, ce n'est pas un chrétien. Ou bien on prend les gens, on les évangélise et on leur fait 3 ans de catéchisme pour décider après diplôme si on va les baptiser. Ça, c'est de la bêtise, ce n'est pas écrit dans la Bible. Dans la vraie église, dans la Bible, quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, même s'il est 2 heures du matin, on le baptise. Vous verrez ça dans la Bible, on a baptisé beaucoup de gens la nuit. On baptise des gens immédiatement, même avant de manger. C'est pour ça que le nid, quand il a donné sa vie à Jésus, il n'a pas demandé si on va le baptiser. Il dit, qu'est-ce qu'on attend pour le baptiser? Une église ne fait pas ce qu'elle veut. Ce n'est pas parce que les femmes aiment bien qu'on fasse des cérémonies de délivrance pour sortir l'esprit de leur mari des bouteilles qu'il faut commencer à créer des soirées de délivrance des femmes parce qu'on voit qu'il y a de l'argent dedans. C'est pas parce que les gens aiment bien les montagnes de feu, de délivrance où on tue Satan, qu'un serviteur de Dieu va multiplier ça, parce qu'il voit que quand c'est ça, les gens courent, donnent des dîmes, donnent des offrandes. Il doit faire ce que le Saint-Esprit l'instruit de dire, s'il est vraiment l'église. L'église, c'est le corps de Jésus-Christ. Et quand quelqu'un a un corps, c'est lui qui commande son corps. Mon corps ne fait rien de lui, mais il ne fait que ce que je lui demande de faire. Mon corps ne vit que par ma tête, c'est ma tête qui coordonne mon corps, c'est ma tête qui fait bouger mon corps. Christ est la tête et la seule tête de l'église. Nulle part il n'est écrit qu'il y a un pape, qu'il y a un bishop ou qu'il y a quelque chose qui est la tête de l'église si ce n'est pas Christ. La seule autorité de l'église, c'est Christ. Et nous devons faire à la lettre sans disputer, sans traîner ce qu'il a dit.
À la lettre, mais
aujourd'hui, l'église n'est pas le corps de Christ. C'est l'ensemble des gens qui veulent être sauvés. C'est l'ensemble des gens qui sont en train de fuir le sorcier. C'est l'ensemble des gens qui espèrent récupérer leur mari qui est parti ou leur femme qui est partie. On prend les gens qui ont les problèmes, on leur dit, viens, Jésus va te sauver, il faut entrer ici seulement. Jésus a tout écrit, il est merveilleux, le Seigneur. Il dit que tous ces gens que vous appelez dans l'église, il ne les connaît pas. C'est là où il dit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ces foules que vous avez appelées là, il n'y en a que très très peu qui étaient vraiment élus. Il dit même, des gens sont comme ça appelés, ils ne sont jamais élus, ils prophétisent, ils font des miracles au nom de Jésus. Jésus dit que ce jour, il dira, non pas je ne les connais plus, mais je ne les ai jamais connus. Donc ils ne sont jamais nés de nouveau, ils n'ont jamais été écrits dans le livre de la vie, le ciel ne les concerne pas. C'est des païens qui ont prophétisé, c'est des païens qui ont enseigné, c'est des païens qui ont fait des miracles. Jésus dit, je ne les ai jamais connus.
Aflia Jesus, ni wa go aso ni si me je imara fogo dire pa san Jesus ro eh. Eh Jesus ro so tun edin, awon ro tun epo pede pon wa. Pite ago si.
Mais vous vous demandez peut-être comment quelqu'un peut avoir guéri des gens Jésus ne le connaît pas.
Lo mi na ka me mi le bon ne, kana epo me le kana go aso, no Jesus ro me ku tun
e o. C'est bien la preuve du niveau d'orgueil que l'église a atteint, vous avez même oublié la vérité.
Eni o wa e hle ko yi yi si te me ba kun wa je ka ka bo awon bo.
Quand les disciples de Jésus, les 70 sont partis, et qu'ils ont fait, on a dit, Jésus voyait Satan tomber comme un éclair, ils ont fait plein de miracles, les esprits mauvais leur obéissaient, chassaient les démons. Qu'est-ce que Jésus leur a dit?
Ils
se vantaient, Seigneur, même les démons nous sont soumis, c'était vrai. Jésus leur dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont soumis, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre de la vie.
Jésus donne aussi à moi mina jéori, mais d'ailleurs puis bon moi l'itaï nous misons à moi mina jéa, mais j'avoue que ni comme ils t'ont dit nous là donc ben ouais ma homme.
Parce que le fait que les démons vous obéissent ne veut rien dire sur votre identité spirituelle.
L'homme est tout le puis bon moi c'est nous mignon, et ni on donne notre démon là quand il rode donc puis bon moi.
Les démons peuvent vous obéir, les démons obéissent aux sorciers parce qu'ils sont de la même espèce. C'est pas parce que vous êtes du Seigneur que les démons va vous obéir. Les démons obéissent à beaucoup de personnes qui ne sont pas en Jésus. Le fait de faire des miracles ne prouve pas que vous êtes en Jésus. Maintenant, il peut même se faire que vous ne soyez pas en Jésus et que quelqu'un guérisse, qu'un démon vous obéisse. Mais ce n'est pas à cause de vous, c'est à cause de Jésus. Quelqu'un est malade. Dieu veut le délivrer. Il a juste besoin que quelqu'un sur la terre dise qu'il est libre. Tu ne connais pas Jésus, tu n'obéis pas à Jésus. Tu es là, tu dis au nom de Jésus, sois délivré. Jésus fait grâce à la personne. Les dons sont donnés pour l'utilité commune. C'est un don, ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un diplôme, c'est un don.
C'est
pas parce que Dieu passe par toi pour guérir quelqu'un que ça veut dire que tu es grand spirituellement, ça ne veut rien dire. Donc il ne faut pas regarder ce que Dieu t'utilise parfois pour faire parce qu'il a pitié du monde pour croire que tu es grand Dieu. C'est pour ça que Jésus dit qu'il y a plein de gens qui vont faire de grands miracles. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Foutez le camp, allez en enfer. Il n'y a pas de place pour vous ici. Je ne vous ai jamais connu. Ce qui fait de toi quelqu'un que Jésus connaît, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, ce n'est pas le fait de dire, parce que bon, tu avais tellement fait, on dit, bon, si tu dis que Jésus est Seigneur, va te donner à manger. Moi-même, je confesse Jésus, donnez-moi à manger. Beaucoup de gens sont venus au Seigneur comme ça, en bavardage, parce qu'ils avaient un problème. La bouche est importante parce que Jésus dit effectivement qu'il faut confesser de la bouche. Mais avant ça, il dit qu'il faut croire. Pas seulement de la tête. Il faut croire du cœur. C'est-à-dire, c'est le niveau maximum de conviction sur ce qu'est l'œuvre de la croix. Sans ça, tu n'es pas né de nouveau. Tu peux te balader à l'église toute ta vie. Dieu ne te connaît pas. Il faut avoir la conviction de péché.
Ce
n'est pas la conviction d'un péché. C'est la conviction de péché, du péché en termes de nature. C'est quoi la conviction de péché? Il n'y a que deux manières pour un homme de vivre. C'est les deux arbres qui étaient proposés à Adam et Ève. Je le dis, je me répète, mais je me répéterai toujours parce que c'est tellement important. Sans ça, vous êtes peut-être sur le chemin de l'enfer en croyant que vous êtes au ciel. Il faut que ce soit clair, donc je le répéterai autant de fois qu'il le faudra. Il n'y a que deux manières de vivre. Il n'y en a pas trois, il n'y a que deux. C'est les deux arbres qui étaient proposés à Adam. Il y a l'arbre de la vie. Qui est la parole de la vie. Qui est le Seigneur Jésus-Christ. Manger l'arbre de la vie est la première option. Ça consiste à ne faire que ce que dit la parole de Dieu. Ça consiste à n'avoir aucune volonté. Ça consiste à ne penser que comme Dieu dit de penser. Ça consiste à ne parler que comme Dieu dit de parler. Ça consiste à n'agir que comme Dieu dit d'agir. Ça consiste à éviter de faire ce que Dieu dit de ne pas faire. Ça consiste à ne pas penser qu'on peut quelque chose par soi-même. Mais à savoir qu'on ne peut des choses que par la parole de Dieu qui est en nous. Ça veut dire que quand on comprend ça, on comprend que l'autre arbre est la mort. Quel est ce deuxième arbre? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'arbre de la connaissance du discernement par soi-même du bien et du mal. C'est le fait de croire face à une situation qu'on peut réfléchir pour savoir quoi faire au lieu de demander à la parole quoi faire. Chaque fois que tu penses que tu as la solution, que tu peux te fier à toi, tu es en train de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal par toi-même. Ça, c'est le chemin de la mort. Ne dis pas que non, c'est toi-même qui penses, c'est pas Satan. Tu n'as pas de volonté, tu es comme une voiture. Il faut un chauffeur pour te conduire. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Quand ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Tout ce que tu fais en croyant que c'est toi-même, c'est le diable qui te le fait faire, si ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible est claire, quand tu fais ce que ton corps, sous-entendu Satan, te commande de faire, tu meurs. Mais si tu fais ce que la parole de Dieu dit de faire, tu vivras. Naître de nouveau suppose d'abord de mourir. Le problème des chrétiens, c'est que la plupart des chrétiens ne veulent même pas qu'on leur parle de la mort jusqu'à leur demander de mourir.
C'est
pas pour rien que l'Apocalypse dit qu'ils ont vaincu l'agneau par le sang, par la parole de leur témoignage et parce que ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de mourir. La plupart des chrétiens n'ont jamais la victoire sur Satan parce qu'ils ont trop peur de mourir pour vivre avec Christ. Dieu ne parle pas là de la mort de votre corps en tant que corps poussière. Il parle de la mort de votre volonté, de votre ego. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui est maître de son corps et qui en fait ce qu'il veut. Parce que quand tu crois que tu fais de ton corps ce que tu veux, en fait c'est Satan qui est en train de faire de toi ce que lui veut. Parce que depuis Adam et Ève, ils ne font plus ce qu'ils veulent, mais ils font ce que Satan veut parce qu'ils sont mis sous l'autorité de Satan en obéissant à Satan.
Donc,
l'homme naturel qui découle d'Adam est spirituellement sous l'autorité de Satan. Donc par défaut, celui qui parle à son cœur et qui lui donne ce qu'il appelle ses envies, c'est Satan. Quand tu ne connais pas Dieu, ce que tu as envie de faire te vient presque toujours de Satan. Et quand tu fais ce que Satan veut, tu vas mourir, tu vas être détruit parce que Satan ne vient que pour détruire, pour tuer. Tu dois mourir à ta volonté. Tu dois décider que ce que toi tu penses, ce que tu ressens, ce que tu as envie de faire, ce que tout ce qui te vient ainsi donc de ton choix, qui n'est que le choix de Satan, c'est fini. Tu ne lui permettras plus jamais de gouverner ton cœur. La parole de Dieu nous dit que nous devons livrer notre corps comme un sacrifice vivant au Seigneur.
Ton
corps ne doit plus être l'instrument de ce que Satan te met à cœur. Tu dois tuer ça. Ce n'est plus toi qui dois vivre, c'est Christ qui doit vivre en toi. Pourquoi on dit que tu es chrétien?
Ça fait
que quand vous voyez l'église primitive, on va l'étudier dans les prochaines semaines, vous ne voyez personne qui dit j'ai telle envie. Hey, tout le monde est réglé, tout le monde est obéissant. Ça va de soi parce qu'ils sont morts. C'est Christ qui vient en eux. On ne se fatiguait pas pour qu'ils suivent le Seigneur parce qu'ils étaient déjà morts. Il faut mourir d'abord au monde. Il faut renoncer au monde. Il faut devenir ennemi du monde. Et de tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu. Que ça paraisse bon ou mauvais, ça ne change rien. Parce que telle voix paraît droite à un homme, mais son issue c'est la mort. Nos voix sont aussi éloignées de celles de Dieu que le ciel est éloigné de la terre. Tu peux même aller donner à manger à un pauvre et ça va te détruire, ça va le détruire, parce que c'est pas ça que Dieu voulait, mais toi tu crois que c'est bon.
Ouais,
pas l'honneur pour ça. C'est en donnant à manger aux gens qui sont en train de les tuer pour piller le pétrole. Dans les pays en guerre là, on envoie la nourriture, on envoie de l'aide humanitaire pendant que ce soit nous qui organisons la guerre pour les tuer, non? Ce que l'homme appelle le bien, si ce n'est pas Dieu qui lui a dit, est toujours le mal. Être un chrétien, c'est avoir compris clairement et définitivement qu'il n'y a rien de bon qui vienne de l'homme.
Donc,
tout ce qui est tien, tu le donnes à Dieu, tu dis, je ne suis plus rien. Prends-moi, je suis mort.
Mais
les chrétiens veulent vivre la résurrection de Christ, la puissance de la résurrection de Christ, mais ne veulent pas rentrer au tombeau avec Christ. Tu ne peux pas sortir du tombeau avec quelqu'un si à un moment ou à un autre, tu n'es pas rentré au tombeau.
Pourquoi
dites-vous que vous voulez naître de nouveau quand vous refusez de mourir? Comment quelqu'un de vivant qui n'est jamais mort peut naître de nouveau?
Il faut
mourir d'abord pour naître de nouveau.
En
réalité, le vrai chrétien n'est plus lui-même. Il devient une marionnette du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer le problème des chrétiens. Si je prends l'un d'entre vous maintenant, et il est bien portant, et j'attache, vous voyez comment on fait pour les marionnettes, j'attache des fils à ses doigts, à ses pieds, à tous ses membres. Même si je le suspends là, je ne peux pas l'utiliser comme une marionnette. Je peux être fort n'importe comment, je ne peux pas le faire danser. Pourquoi? Parce qu'il est encore lui-même. Il a encore une volonté. Quand je tire sa main, on lui peut encore bloquer. Je peux vouloir le faire tourner, lui veut tourner à droite. On ne peut pas faire danser quelqu'un qui a de la volonté. Une marionnette, par définition, n'a pas de vie, il est mort. La matière est là, mais elle n'a pas de vie, elle n'a pas de volonté. Vous allez voir qu'elle est cassée à beaucoup d'endroits, ce qui permet de facilement faire les mouvements. C'est pour ça que quand quelqu'un vient à Jésus, que Jésus le bénit, Jésus le brise d'abord en petits morceaux malléables. Parce que si par exemple tu peux encore bouger ta main par toi-même, lui ne peut pas bouger ta main, il doit casser ta main d'abord. Vous savez comment Dieu casse ta main? Il y a des choses que tu faisais dans le monde, ça marchait. Quand il y a des problèmes, tu cours comme les gens du monde, ça marche, tout le monde, même si ça va te créer des problèmes après. Parce que c'est quand on est avec Satan, c'est pas que les choses ne marchent pas. Les choses marchent, mais sont suivies de chagrin. Les choses marchent facilement, mais sont suivies des quantités de problèmes éternels. Avec Dieu, les choses vont prudemment et patiemment, mais ne sont suivies que de bonheur et de gloire éternelle. Les gens du monde peuvent amasser 1 million en une journée. Mais il peut payer tous les médicaments du monde, il ne dort pas bien. Il peut tout faire, il aura des cauchemars. Il peut tout faire, il n'a pas la peur du cœur. Il est toujours sur sa garde. Il a un grand fardeau sur lui. Il a tout ce qu'il dit qu'il veut avoir. Mais il n'est pas heureux. Il a une femme, il a deux femmes, il a trois femmes. Mais il n'est pas heureux. Il a 20, 30 maîtresses. Il n'est pas heureux. Il est président de la République. Il n'est pas heureux. Il est président de la République. Il n'est pas heureux. Il est milliardaire. Il n'est pas heureux. Ça, c'est Satan. Satan donne les choses, hein. Mais ça ne te donne jamais ce que tu veux. Ça ne te donnera jamais la paix. Parce que le prince de la paix, c'est Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu n'auras jamais la paix. Mais regardez-vous, regardez les 6 derniers mois. Tout ce que vous avez souhaité, combien n'avez-vous pas obtenu? Est-ce que ça vous a donné ce que vous voulez? Tu vois une robe, tant que tu n'as pas acheté, tu ne te sens pas bien. Mais quand tu achètes, est-ce que tu te sens bien? Tu ne te sens plus bien. C'est 2 secondes. Soit tu as encore décidé d'avoir gaspillé, soit tu oublies ça rapidement, un autre problème t'attend encore. L'homme court tous les jours pour avoir des choses, pour se sentir bien, mais aucune de ces choses ne lui permet de se sentir durablement bien.
Bon, nous aussi,
Donc quand tu dis à Jésus de s'occuper de toi, je vous ai déjà dit, c'est quoi donner sa vie à Jésus? Si je vois un mouton dans la rue, ou bien un chien dans la rue, il est saillé, les pieds cassés, il est maigre, c'est pas mon problème. Si même le vétérinaire qui est là ne va pas s'arrêter pour lui, c'est pas son problème, c'est un chien perdu. On peut pas s'arrêter pour chaque chien perdu qu'on voit. Mais si quelqu'un prend ce chien là, viens me voir là maintenant, dit monsieur Guidibi, je sais que tu aimes les chiens, c'est un beau berger allemand, c'est parce qu'il a été malmené par la vie, je te l'offre. Si je dis oui, immédiatement je vais le laver, je vais appeler le vétérinaire, je vais le vacciner, je vais le soigner, je vais lui acheter de la nourriture. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois à dépenser 100 000 francs sur un seul chien en une journée. Et quand tu le vois après, il est beau, il est grand, il est fort, toi-même tu es content de ton chien. Mais je ne veux pas faire ça pour un chien qui est dans la rue. Mais dès que le chien devient pour moi, quand je l'appelle, il est là. Il va me défendre. Il va attaquer. Il aboie quand quelqu'un arrive. À partir du moment où le chien est pour moi, ses problèmes deviennent mes problèmes. Je m'occupe de lui. Pas parce qu'il est un chien, mais parce qu'il est mon chien. C'est pareil pour Jésus. Si tu es dans le monde, c'est ton problème. Tes problèmes, c'est tes problèmes. Mais le jour où on te donne à Jésus, ou quelqu'un dit, Seigneur Jésus, je te présente celui-là. C'est désormais ton enfant. À cause de Christ, ça ne pleut. Si Jésus dit oui, désormais, il te considère comme son enfant. Il s'occupe de tes problèmes. Parce que tu es désormais pour lui. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 17 que il ne prie pas le Père pour le monde. Il le prie pour ceux qui lui appartiennent. Ceux qui ont quitté du monde pour venir à lui. Ceux qui reconnaissent qu'il est Dieu. Ceux qui lui obéissent. Il dit, c'est pour eux que je te prie. Je ne te prie pas pour les autres. Tu n'es pas pour Jésus. Il n'a rien à cirer de toi. Je n'ai pas fait tu ne viens pas à l'église. Hein? Il y a plein de gens qui viennent à l'église qui ne sont pas pour Jésus. Parce que quand tu es pour quelqu'un, imagine on me donne le chien. Je le trouve sale. Je dis de le laver. C'est mon eau. C'est mon savon. C'est mon shampoing. Et le chien dit qu'il n'a pas vu se laver, maintenant on va voir dans trois jours. Ou je le tabasse ou je le sors. Mais c'est ça le chrétien. Je donne ma vie à Jésus. Pas vers les eaux du baptême. Non, on m'avait aspergé de l'eau sur la tête. Moi, je ne veux plus me baptiser. Quand un chien est sale, on peut lui aspergé de l'eau sur la tête pour laver. Non, ça ne me plaît pas. Non, c'est pas bon. On va voir après. Ça veut dire que tu n'es même pas prêt à obéir à la première demande de celui auquel tu dis que tu es désormais son
esclave.
Le test que tu es né de nouveau, c'est quand tu es prêt à faire bêtement tout ce que Dieu dit sans réfléchir, que ça te plaise ou non. Parce que si tu es né de nouveau, tu deviens une marionnette. Quand il veut lever ta main, tu n'as même plus la possibilité de dire non, ta main est déjà cassée. Non, il va la lever. Donc quand tu es déjà cassé, Dieu peut te faire danser de manière magistrale. Le problème des chrétiens, c'est que le Seigneur n'arrive pas à les manœuvrer. Tu es là. La chose te dit, ton voisin là ne connaît pas le Seigneur. Hein. Va parler avec lui, va lui faire le témoignage. Ce gars-là, il va dire maintenant qu'il ne veut pas m'écouter. C'est un païen, je le vois se droguer tout le temps. Tu l'oublies. C'est comme ça, on dit non à Jésus, on dit qu'on
est
Si non, ce gars-là, il ne peut jamais recevoir le Seigneur, il est tout borné. On te dit de dire à tes collègues que Jésus est vivant, de les inviter. Non, ils vont se moquer de moi. Bon, le boulot n'est pas fait pour ça. Et tu te trouves des prétextes. Jésus ne peut rien te demander, tu vas faire. Et tu veux mentir, qui tu lui appartiens. Sous ce genre de considération stupide, c'est pour ça qu'il dit ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné. C'est un esprit de force, de sagesse et d'amour. Avec la force, tu n'auras pas peur. Avec la sagesse, tu sauras quoi faire. Avec l'amour, tu auras envie de le faire pour le sauver. Si quand les gens ont des problèmes, si quand quelqu'un est malade, si quand quelqu'un est désespéré, Dieu ne peut pas obtenir que tu te lèves pour le sauver. Tu n'es pas né de nouveau. Si tu étais né de nouveau, tu serais une mariée dans la main de Dieu. Ou peut-être que tu es né de nouveau, mais le Seigneur n'a pas fini de te briser. Mais si tu n'es vraiment bien de nouveau, tu vas te laisser briser par le Seigneur. Et plus le Seigneur te brisera, plus il pourra t'utiliser. Plus tu utilises, plus il te bénira. Et plus il bénira des gens par toi. Donc, un chrétien qui ne peut pas être manœuvré par le Saint-Esprit, et donc qui est manœuvré par le diable, n'est pas un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est le fait d'accepter que toute chose qui n'est pas la parole est morte en toi. Mais écoutez, prenez le cas d'Abraham. Mais Dieu t'a donné un enfant. Dans le contexte qu'on fait, 100 ans passés, après l'avoir promis, après avoir prophétisé des choses éternelles par rapport à cet enfant, et la parole de Dieu te dit, tu es l'enfant. Abraham avait 1000 choses à dire pour ne pas faire ça. Mais il était mort à lui-même. Quand Dieu a dit, Dieu a dit. Il s'est levé, il est parti le faire. Et Dieu a révélé sa fidélité. Mais c'est ça que vous n'êtes pas capable de faire. Par le grand apôtre. Vous voulez aller évangéliser dans certaines villes. Le Saint-Esprit dit non. Évangéliser, hein? Le Saint-Esprit dit non, pas là. Il s'arrête. Combien de pasteurs écoutent le Saint-Esprit aujourd'hui pour faire des programmes? Combien d'entre vous pouvez vouloir signer un contrat de 10 millions et le gars est d'accord, le Saint-Esprit dit non et vous laissez parce que le Saint-Esprit a dit non? Moi, régulièrement dans ma vie, ça m'est arrivé que des choses que j'étais sûr de faire, le Seigneur dit stop. Il regarde si tu peux faire stop total. Même nous, pour nous marier, à un moment de notre vie, nous avons cru que le Seigneur voulait qu'on s'arrête. Et je crois qu'il avait dit s'arrêter. L'avait-il dit ou l'avons-nous mal compris? Je n'en sais rien, mais nous étions convaincus qu'il avait dit s'arrêter. Nous nous sommes arrêtés, point final. C'était douloureux, mais nous nous sommes arrêtés. Je n'étais même pas au Bénin, j'étais très très loin. Quand quelqu'un qui ne m'a jamais vu, qui n'est même pas béninois, m'a raconté, je parle au nom de l'Éternel. Telle personne, je ne la connais pas, appelle la épouse. Dieu, quand il voit votre cœur, votre capacité à l'obéir, il va te faire comme Abraham, il va pouvoir lui-même à l'agneau. Mais la plupart d'entre vous n'êtes pas capable de sacrifier 25 francs pour Dieu. Moi, j'ai déjà perdu 22 millions pour ne pas mentir. J'ai vendu un terrain qui devait être de 500 mètres carrés. Le client a payé parti. Je me suis rendu compte que les gens ont trafiqué le papier. Ce n'était que 350 mètres carrés. Ce n'était pas ma faute. J'aurais pu dire ça ne me concerne pas. Moi, j'ai pris les 22 millions, j'ai même déjà bouffé. Mais le Seigneur me dit, Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on fasse si tu étais à la place du client? J'aurais voulu qu'on me prévienne. Alors qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois le prévenir. Tous mes collaborateurs m'ont dit que j'étais fou. Mais j'ai appelé le client. Je l'ai prévenu. Il a dit remboursez-moi mon argent. Je lui ai remboursé son argent. C'est ça qu'on appelle obéir à Dieu. Parce que ce que Dieu n'a pas béni dans tous les cas va te créer que des problèmes. Et si tu perds quelque chose par obéissance à Dieu, Dieu te le donnera toujours centuple. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien en faisant toujours ce que vous voulez. On vous dit il y a un programme à telle heure, je suis occupé. Ça veut dire quoi d'être occupé quand tu es l'esclave de quelqu'un? Je peux appeler mon chien et va me dire qu'il est occupé? Je peux appeler ma fille et elle va me dire qu'elle est occupée? Vous dites que vous êtes des esclaves de Jésus. Vous dites notre Père. Et vous appelez, vous êtes occupé. Occupé à quoi? Occupé à quoi? Quand ton père qui te nourrit, qui te fait tout dans ta vie, qui te réveille, s'il ne voulait pas, tu serais couché ce jour-là. Quand il t'appelle là, tu es qui pour être occupé par quoi? Il te dit de parler à quelqu'un. Tu dis qu'on va t'insulter. Mais vous ne pouvez pas vouloir vous comporter comme des gens libres et démocrate d'aller à l'église comme ils veulent et attendre que Dieu vous traite comme des enfants, comme des esclaves. On va l'étudier tout ce mois, lisez les actes des apôtres. Mais les gens allaient jusqu'à vendre tous leurs biens et ils apportaient à l'église pour dire tenez. C'est pas qu'il ne faut rien avoir. Mais si je suis chrétien, mais moi je connais des serviteurs de Dieu. Dieu peut te dire un jour, va ta maison, ferme globale, vends toutes tes voitures, envoie ton épouse chez tes parents avec les enfants. Et suis moi, je t'attends à la tête. Le Dieu dont nous parlons, vous ne le connaissez pas, hein? Si il te dit ça, mais comme le dit David, tu fuiras où loin de sa face. Le problème, c'est que quand Dieu a dit ça, si tu ne le fais pas, pour le suivre immédiatement, tu le feras. Il va fermer ta société. Il y a des gens qui sont en faillite et dont les choses ne marchent pas parce que ça fait longtemps que Dieu l'a dit de s'arrêter, il perd ses yeux. Quand tu prends le chemin que Dieu a refusé, Dieu te ferme le chemin. On va enseigner aussi dans cette période sur Jonas. C'est le problème de Jonas. Quand Dieu dit va à Ninive et tu prends un autre chemin, la tempête se lève, le poisson va t'avaler. Tu vas être prisonnier dans le vent du poisson en pleine mer. Tu ne bougeras nulle part. Tout le reste, c'est la foutaise. Il faut être bête pour essayer de fuir Dieu. Ne confondez pas la fin et les moyens. On ne se marie pas parce qu'on veut se marier. On se marie parce qu'on veut avoir la paix du cœur. Parce qu'on veut se sentir en paix. On veut se sentir aimé par quelqu'un, aimé quelqu'un. On veut s'occuper de quelqu'un qui s'occupe de nous. On veut pouvoir compter sur quelqu'un. On veut pouvoir partager son intimité avec quelqu'un. On veut pouvoir demander conseil à quelqu'un. On veut pouvoir s'inquiéter pour quelqu'un qui s'inquiète pour nous. On veut pouvoir avoir une famille avec quelqu'un. On veut être heureux avec quelqu'un. Cela veut dire que la question, ce n'est pas lui me plaît ou elle me plaît. L'objectif ne doit pas être de choisir tel ou tel. c'est de pouvoir atteindre l'objectif que je dis là. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'un bon conjoint est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas un choix de l'homme. Et comme Dieu révèle tout, tout est écrit, quand Dieu voulait donner une femme à Adam, il l'a endormi. Et Adam était en éveil, il était déjà créé. Dieu l'a endormi pour créer. Elle vous dit, ce n'est même pas ton problème ce que je vais faire. Mais quand Adam s'est réveillé, waouh, si tu laisses Dieu faire, ça peut ne pas être ce que tu as demandé, ça peut ne pas être ce que tu as dessiné. Mais si c'est Dieu qui a fait, ton waouh va dépasser toujours ce que tu as choisi.
Mais
Dieu sait tout, toi tu ne sais rien. Tu ne sais même pas qui tu es aujourd'hui et tu ne sais pas ce que tu seras demain. Tu ne sais pas qui ton conjoint aujourd'hui, qui sera demain. Tu ne sais pas quelle est la nature de son cœur. Dieu seul sait tout ça. Quand sachant tout ça, sachant son plan pour toi, son plan pour l'autre, il te choisit quelqu'un, tu ne peux jamais faire mieux que lui. Et ce que Dieu fait sera toujours parfait pour toi. Et même en avançant, tu découvriras à quel point c'est parfait. C'est-à-dire quand Dieu te donne quelque chose, tu ne découvres pas entièrement sa qualité aujourd'hui. C'est sur le chemin que tu réalises que ah, donc c'est pour ça qu'il m'avait donné ça. Ah, c'est pour ça qu'il avait ci. Ah, donc c'est pour ça qu'il avait ça. Quand Dieu te donne quelque chose, tu découvres tous les jours que c'est doux. Mais c'est comme on venait de le dire, si tu ne laisses pas mourir ton choix humain, tu ne peux pas voir vivre le choix de Dieu. Il faut déposer ce que tu as dans la main pour que Dieu te donne ce qu'il a prévu pour toi. Jésus dit qu'il est le chemin. Tu as déjà pris un chemin dans ta vie. Tu es en train d'aller au nord, par exemple. Et tu dis, Jésus, il faut me le sauver. Jésus dit, va au sud. Tu dis non, que toi, tu as déjà choisi le nord. Il n'a qu'à te dire aller au nord. Tu me dis que tu es pauvre. Je te donne 10 millions. Je dis ok, j'ai mis ça dans ma maison à la zone des ambassades. Va et demande à mon gardien à la zone des ambassades de te remettre 10 millions de ma part. Tu dis non, que toi tu avais déjà décidé d'aller à l'ADA et que tu es déjà arrivé jusqu'à Calavi. Donc je ne peux pas te demander de retourner à papa que de te laisser aller à Calavi. Ou de te donner la chose quelque part dans la vie à la dame, de ne pas te dire de changer de chemin. Mais c'est ça la question de laisser Dieu agir. Obéir à Dieu, c'est quand Dieu dit va à papa. Que ça te plaise ou non, va à papa. Parce qu'il n'y a rien pour toi là dans tous les cas. Mais désobéir à Dieu, c'est dire, moi, comme j'ai pris le chemin de Aladala, rien ne m'empêchera. Si Dieu veut m'aider, il n'a qu'à m'envoyer l'argent à Alada. Oh, Dieu dit que l'argent est à papa. Est-ce que toi-même, tu crois que ça peut marcher?
Ton C'est
la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Pourquoi tu dis que c'est Dieu qui va te servir? Et quand Dieu dit d'aller là où on sait, tu dis que non, toi tu ne vas pas aller
là.
Tu ne veux pas laisser mourir tes choix et tu veux que Jésus te fasse vivre. Il est la vérité, te dit la vérité, tu dis non, que ton mensonge est plus vrai que sa vérité. Tu dis que où est la solution, il te montre le chemin, tu dis que lui, tu ne veux pas son chemin, de te donner le chemin que toi tu as déjà choisi, même si ça ne donne rien. Tu ne veux pas faire tout ça, comment tu vas avoir la vie de Jésus? Si tu continues de faire ce que tu as toujours fait, tu auras la vie que tu as toujours
eue.
Écoutez-moi bien. Si tu continues de faire ce que tu as toujours fait, tu continueras d'avoir la vie que tu as toujours
eue.
Si tu veux avoir la vie que tu n'avais pas eue, il faudra commencer à faire les choses que tu n'as pas fait. Quand tu comprends ça, tu n'obéis plus à Dieu par peur de Dieu. Tu obéis à Dieu en n'aurait pas intérêt d'être béni. Tu vas devenir amoureux de Dieu parce que tu feras ce qu'il dit de faire. Tu vas voir que c'est toujours bon pour toi. Consacrez-vous à Dieu. Soyez des vrais chrétiens. Laissez Christ vivre en vous. Mais comme il ne peut pas y avoir deux rois sur le trône de votre cœur, ça suppose de laisser mourir votre moi. Tant qu'on n'a pas réglé ce problème dans votre vie, vous êtes sur le chemin de l'enfer. Oh, c'est ça que les chrétiens ne veulent pas entendre. Quand on commence à dire la vérité, quelque part l'église se vide. Dès que la parole poignarde quelqu'un, la personne fuit. Heureusement, moi, je n'ai pas d'affinité personnelle avec les autres. C'est les églises où le pasteur avec tout le monde. On dit même que c'est pour insulter telle personne que le pasteur a parlé. Oh, c'est le Saint-Esprit qui parle aux gens.
Amoro, mais non, bouvant. Mais non, flou. Nous l'avons dit à Koundé, mais ouais, au Mao, ça va, mais Bikodo, il rame. Bon, mais Bino, le hobby, il nous met des ouais. Ouais, nous, il y a mis le hobby, mais on a noté le hobby, mais il y a un coffre, il y a un coffre. Oh, check, il y a un coffre, il y a un coffre, il y a une prédication, mais il y a un coffre.
Quand tu vas à l'hôpital, tu as appendicite, on ne te caresse pas. On te fait d'abord une piqûre, après, on prend un couteau. Bon. Pas écouter, tu as fait l'hôpital, tu vas où avec la
pédicité?
Mais parce qu'il faut charcuter pour faire sortir le bébé.
Vous êtes...
Quand vous priez, le Saint-Esprit vous rend enceinte de la bénédiction. Quand Dieu dit que la femme accouchera dans la douleur, il ne parle pas qu'aux femmes, sinon il ne serait pas juste. Il parle aussi aux hommes. Les hommes aussi accouchent de la vie, accouchent de la gloire, accouchent de la prospérité. Mais toujours dans la douleur de l'enfantement. Plus l'accouchement approche, plus la douleur augmente. C'est normal, c'est la délivrance. C'est souvent quand ce que tu attends de Dieu est sur le point d'arriver qu'une grande douleur arrive pour te décourager, mais il faut rester calme. Et la parole de Dieu est ce couteau-là, est cette épée à double tranchant qui doit aller couper jusqu'à la jointure de l'os et de la moelle pour pouvoir t'opérer. Si tu fuis le couteau du Saint-Esprit, tu ne seras jamais sauvé.
Et ça, c'est
Et c'est un acte d'amour que de risquer de vous dire la vérité. Vous devez savoir que quand quelqu'un dit la vérité comme moi, ça lui coûte très très cher. Il est plus facile de vous dire ce que vous voulez attendre que de vous dire la vérité. Donc si quelqu'un te dit la vérité, c'est parce qu'il t'aime tellement qu'il est prêt à souffrir pour devoir te dire la vérité. Surtout que le Seigneur dit, vous découvrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Si on ne t'a pas donné la vérité, on ne peut jamais te libérer. Et beaucoup de chrétiens sont prisonniers du diable parce qu'on prophétise sur leur tête sans jamais leur donner la vérité qui est la seule à avoir le pouvoir de les libérer. Arrêtez de fuir la parole. Laissez-vous opérer en louant Dieu d'avoir bien voulu vous opérer. Et bientôt, le bébé que vous attendez sortira, vous allez sauter de joie. Que Dieu vous bénisse.
Vous venez de suivre Lève-toi et prie, un enseignement du Centre Jésus pour réussir, 6 à Kounou, au bord des pavés, derrière le stade de l'Amitié, à côté du complexe Félix Houphouët-Boigny. Diffusé tous les jeudis à partir de 22h30 et tous les dimanches à partir de 8h00. Vous pouvez aussi obtenir copie de cette émission au www.jesuspourreussir.org ou nous appeler au 229 61 44 44 44. Vous êtes bienvenus à nos séminaires interactifs tous les mercredis et jeudis de 19h à 21h. Nos cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de la parole de Dieu. La meilleure arme offensive et défensive que Dieu nous ait donnée ont lieu les dimanches de 9h à 12h le matin et de 18h à 21h les soirs. Ils transformeront rapidement votre vie si vous vous donnez la peine de les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.